Alors, le thème de cet après-midi, c'est comment devenir un adorateur missionnaire. Alors, c'est un thème assez courant. Certains d'entre vous peuvent se dire, voilà, je suis déjà adorateur, peut-être j'ai déjà 1 heure d'adoration par semaine. D'autres font certainement des missions dans leur paroisse, auprès d'associations, ou peut-être vous avez déjà participé au congrès mission. De plus, l'Église rappelle souvent la nécessité d'être missionnaire, et en particulier ces dernières années avec le pape François qui nous a invités à aller même aux périphéries. Mais concrètement, dans notre vie, nous voyons bien qu'on a du mal dans le quotidien à tenir compte de ces deux réalités et à trouver du temps pour cela. Et même parfois, on peut dire qu'on est un peu tiraillé. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'adoration? Est-ce qu'il faut que j'aille dans la rue, être missionnaire auprès d'une association, à rencontrer un malade? Voilà. Samedi 16 juillet, j'ai eu l'opportunité d'être invitée à Paray le Monial pour la messe d'envoi de tous ceux qui partaient pour la Fidesco, envoyée par la Fidesco. Donc, c'est un organisme de la communauté de l'Emmanuel qui envoie des personnes auprès des plus pauvres. Et donc cette année, il y a à peu près 89 personnes qui sont envoyées en mission, qui vont partir au mois d'août ou au mois de septembre. Et j'ai été invitée parce que ma cousine faisait partie de ces personnes. Elle s'est mariée la semaine dernière et avec son mari maintenant, ils ont décidé de partir pendant une année auprès des plus pauvres. Et je ne sais pas si vous savez, mais ils choisissent pas où ils vont. Peut-être que nous, on choisit où on part, mais en tout cas, je crois qu'à Point-Cœur, c'est pareil, mais en tout cas, pour la Fidesco, on ne choisit pas. Donc, il y a une année de discernement où des gens essayent de connaître les personnes, il y a une formation et tout ça. Et au fin mai, on leur dit, voilà, tu vas aller en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas simple. C'est vraiment un abandon à la Providence. Et donc, ils se sont rencontrés dans une association qui s'appelle ABO, à bras ouverts. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une très belle association. Et ils ont choisi de partir tous les deux pour se donner pendant une année. Et dans ces personnes, il y avait aussi des petites familles qui partaient avec 3, 4 enfants. Je voyais des petits bouts de choux qui se promenaient là. Et je me disais, bah, dis donc, ils ont fait le choix de partir en mission, en emmenant toute la famille. Voilà. C'est pas rien, hein. Et alors, à la fin de la messe, je disais à ma tante, bah, waouh, c'est quand même un sacré engagement, un certain défi. Et puis j'étais émerveillée. Elle me dit, mais toi, tu as donné toute ta vie à Jésus, c'est bon. Alors, je dis, ah non, non, aujourd'hui, là, vous me demandez de partir en Afrique, c'est même pas la peine, quoi. J'y vais pas, voyez. Et donc, je me suis dit, oh là là, mais où est-ce que j'en suis dans ma mission, quoi? Et ça m'a donné l'occasion de réfléchir à cette conférence, mais aussi à ma conversion personnelle. Et je me suis dit, en fait, où est-ce qu'on est envoyé en mission? Et surtout, qu'est-ce qu'on n'a pas encore laissé pour pouvoir partir en mission? Le Seigneur nous attend parce que on n'est pas forcément invité en Afrique, mais on sait très bien que proche de chez nous, quand quelqu'un qui nous demande, oula, oui, bah oui, je n'ai pas trop le temps, quoi. Oui, peut-être demain. Et puis on reporte facilement parce qu'en fait, ça rentre pas dans notre case. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de quitter? Alors, c'est cette démarche que je voudrais faire avec vous pendant cette conférence, c'est qu'on cherche ensemble comment on peut devenir un adorateur missionnaire. Ou peut-être être davantage un adorateur missionnaire si on l'est déjà. Et surtout, comment nous réveiller dans notre amour pour Jésus? Parce que c'est ça qui va tout déclencher le reste. Alors, devenir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est jamais acquis. Ça veut dire que on va chercher sans cesse, nous devenons sans cesse ce que nous sommes, nous avançons, nous reculons. Il faut accepter d'être dans un certain combat. Ça, c'est clair. Il y a toujours un combat dans notre vie au sujet de la mission et aussi de l'adoration. Monseigneur Lernoux, donc qui est évêque de Constantine et d'Hippone, c'est l'évêque successeur de saint Augustin, faisait cette homélie le 16 juillet, le fameux 16 juillet à Paray le Monial, et il disait, il a confiance, il parlait de Jésus, il a confiance en chacun d'entre nous, il nous appelle tous d'une manière unique pour nous envoyer dans une partie de sa vigne afin que nous collaborions au salut de tous. Bien sûr, il y a des appels particuliers à partir en mission, loin géographiquement, près des plus pauvres. Mais Et il continuait à dire, au début de l'évangile de saint Marc, il y a des paroles étonnantes. Il guérit des malades et il leur dit surtout de ne rien dire. Il leur demande de se taire et à la fin de l'évangile, il leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Alors, il faut y aller ou pas y aller ? Hein ? Parler ou ne pas parler ? Est-ce que Jésus se contredit ? Non. C'est tout un chemin qui se fait jusqu'au moment où il va les envoyer dans toutes les directions du monde en leur disant « Faites des disciples ». Quel est ce chemin parcouru ? Celui de la formation d'un cœur qui se prépare à servir et à aimer aux dimensions du cœur de Jésus. Vous voyez, c'est tout le sens de l'adoration. Le Seigneur nous fait parcourir un chemin pour préparer notre cœur pour être envoyé en mission. Alors avec vous, je voudrais relire l'onction de Béthanie qu'on trouve dans l'évangile de saint Jean au chapitre 12. Parce que l'adoration va préparer vraiment notre cœur à la mission. Au verset 1, on peut lire « 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Dans ce texte que nous connaissons bien, ce qui est étonnant, c'est que chacun a sa place autour de Jésus. Marthe, elle a reçu la mission d'un service important et on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui sont doués pour le service. Mais il s'agit de bien le faire, sans inquiétude, paisiblement et consciencieusement. La manière dont nous rendons un service compte beaucoup, quand nous le faisons avec amour, humilité et pourquoi pas avec le sourire. Et avec l'intelligence de ce qui est bon pour celui qu'on sert. Vous voyez, on a l'exemple ici à Notre-Dame-du-Lot, vous avez tous été impressionnés par l'accueil qu'on reçoit. Il y a beaucoup de gens qui sont au service, et j'en ai vu rarement qui étaient complètement stressés, pris par des tas de choses dans la tête. Non, quand on arrive au self, par exemple, eh ben, ils nous accueillent. Voilà, ils sont disponibles pour nous, ils nous attendent et ils nous accueillent vraiment chaleureusement. Et ce service peut être un beau témoignage du don de soi que l'on peut faire aux autres. Bien sûr, il ne s'agit pas d'accaparer notre service ou de s'en servir comme un pouvoir. On a vu tous les abus qu'il peut y avoir dans l'église, dans les paroisses et tout ça. Vous voyez, c'est l'exemple typique, c'est la personne qui est responsable des fleurs et qui accapare son service pendant des années et des années. Et alors les autres, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Hein. Voilà. Non, il y a une manière de servir, qui fait que c'est un service qu'on rend pendant un certain temps. Et c'est pas pour ça qu'on n'accueille pas les autres qui veulent rendre service en même temps que nous. Lazare, c'est l'un des convives, proche de Jésus avec les autres. Saint Jean précise qu'il est proche de Jésus, peut-être physiquement, mais aussi par le cœur, c'est son ami. Souvenons-nous comment les sœurs de Lazare ont interpellé Jésus pour lui demander de venir au chevet de son frère. Ton ami, ils ont appelé Jésus en l'interpellant, ils ont dit « Ton ami est malade ». Et Marie, elle a ce geste inattendu, voire osé. Probablement, ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre Jésus. Il y a dû avoir une rencontre précédente, bouleversante, qui a changé sa vie. Elle accomplit ce geste avec un certain empressement, avec passion et démesure. C'est un geste très féminin, charnel, qui implique toute sa personne. De plus, elle utilise un parfum de grand prix, de luxe, très pur et de grande valeur, qu'elle a dû spécialement choisir pour accomplir cet acte. Elle n'a pas pris n'importe quel parfum, Marie. Elle a pris celui qui était le plus précieux pour elle. Non seulement elle verse ce parfum sur les pieds, mais sur, pas sur n'importe quel pied, sur les pieds de Jésus. Elle le reconnaît comme son Dieu unique. Elle semble même prête à tout donner par le fait qu'elle offre son parfum le plus précieux. Vous voyez, elle déverse ce parfum. On sait bien qu'un parfum, quand il est versé, ben, on peut pas le récupérer, hein. C'est, quelque part, c'est foutu, hein. Sauf que là, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a gardé ce parfum pour Jésus. Au-delà de la matière de l'offrande, nous pourrions comparer ce geste avec l'obole de la veuve, qui, elle, ne met que 3 pieds 7. Mais derrière cela, ces deux femmes donnent tout. Elles se donnent entièrement. C'est pourquoi Jésus se reconnaît dans ses gestes. Lui-même se donne totalement à la croix. C'est le geste de l'adoration par excellence. Reconnaître Dieu comme l'unique Seigneur et le choisir à toutes les autres idoles, l'argent, le pouvoir, la notoriété, le regard des autres, l'efficacité. Hein, on a vu avec Père Jérôme, il nous parlait de toutes les idoles qui nous détournent de Dieu et qui nous empêchent de l'adorer en vérité. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est son geste à elle, il n'est pas imitable. Par contre, Marie peut nous aider à remettre Jésus au centre de notre vie. Elle répond à ce geste à l'amour inconditionnel de Jésus pour elle. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que Jésus nous aime follement, à chaque instant, d'une manière unique? Et surtout qu'il n'y a que de l'amour dans le cœur de Jésus. Rien d'autre que de l'amour. Nous, nous aimons plus ou moins une personne. Du côté de Jésus, son amour est fidèle, gratuit. Aucun mérite de notre part. Total, éternel. Quand on va à l'adoration, soyons convaincus que même si on ne ressent rien, ça arrive souvent, Jésus, il comble notre cœur de son amour. Il comble notre cœur de son amour. On ne peut pas aller à l'adoration sans rien recevoir. Ce n'est pas compatible avec Dieu. Si on va à l'adoration, si Dieu est tout amour et qu'il n'est qu'amour, forcément, si on va à l'adoration, on reçoit que de l'amour dans notre cœur. Encore une fois, peut-être qu'on n'en a pas conscience, peut-être que ce n'est pas sensible, mais en tout cas, on reçoit de l'amour dans notre cœur. C'est important ce que je vais vous dire pour la mission, parce que des fois, on se dit « Ah non, mais je ne peux pas y aller parce que je ne sais pas quoi faire ou je ne sais pas comment faire. Ben, » on a déjà l'amour dans notre cœur. Hein. On a déjà ça qui est très précieux et c'est peut-être l'essentiel. Marie nous invite par son geste à redécouvrir la présence de Jésus. Elle est toute à lui. Elle ne se préoccupe pas des autres, ni de ce qu'on pourrait penser d'elle. Elle est très libre car elle est toute à son Dieu. Marie nous apprend par ce geste à revenir à la présence de celui qui est l'éternel présent. C'était le père Ludovic qui a fait une très belle conférence, si vous ne l'avez pas entendue l'année dernière. N'hésitez pas à la retrouver parce que c'était une très belle conférence sur notre présence auprès de la présence de Dieu, l'éternelle présence de Dieu. Et l'adoration, le fait de se reconnecter à Dieu, va rejaillir sur notre manière d'aimer, de vivre, d'agir, de se donner en vérité, de mettre beaucoup d'amour dans ce que nous faisons. Mère Teresa disait « Le Christ ne demandera pas la qualité de travail que nous avons accompli, mais combien d'amour nous y avons mis. » Je pense qu'il faut que je répète une deuxième fois, parce que c'est une phrase qu'on oublie souvent, qu'il faudrait noter en lettres d'or partout où on va. Le Christ ne demandera pas la quantité de travail que nous avons accompli, mais combien d'amour nous y avons mis. Et pour cela, nous avons à puiser cet amour auprès du cœur eucharistique de Jésus. Il nous a laissé son cœur en permanence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Marie, qui vient humblement reconnaître son péché face au Seigneur en déversant ce parfum de grand prix aux pieds de Jésus. Et puis, elle est envoyée. Va dire à mes frères, il est un peu dans toute sa vie, cette mission, le Seigneur lui confie cette mission d'aller auprès de ses frères. Il envoie cette femme, Marie-Madeleine, qui a été convertie et qui va pouvoir aller témoigner de sa conversion auprès des autres. Mais Marie, elle donne d'abord ce témoignage de cette miséricorde reçue. C'est pareil, nous aussi, on peut donner un petit témoignage des petits pas, des petites conversions qu'on a vécues avec Jésus. Et c'est ça qui va toucher les personnes qu'on rencontre. C'est tout l'amour que Jésus a mis dans notre cœur et surtout la miséricorde qu'il a fait déborder dans notre cœur. Ce qui va toucher les personnes que vous allez rencontrer, ce n'est pas de voir que vous êtes parfait. Parfois, hein, je ne sais pas si c'est vous, mais parfois on se croit un peu parfait, on se dit, bon, voilà, on paraît voilà, un peu mieux que les autres, on se met un petit peu plus en valeur. Ce n'est pas ça qui va toucher les gens, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais notre témoignage, encore une fois, le témoignage de notre conversion, là, ça va avoir un impact sur les gens. Ils vont se dire, ah tiens, si elle s'est convertie, ben moi, j'ai une possibilité aussi de passer par là et de me convertir parce que la miséricorde de Dieu, elle est toute puissante. Sainte Marguerite Marie, elle a écrit une méditation pour la fête de Sainte Marie-Madeleine que je vais vous lire maintenant. Il nous faut, mes très aimées sœurs, imiter Sainte Madeleine en cette sorte. Premièrement, il nous faut convertir du péché à la grâce et de nous-mêmes à Dieu. Il nous faut nous convertir du péché à la grâce et de nous-mêmes à Dieu et de l'amour propre à l'amour divin. Elle a quitté le monde pour faire pénitence en s'embarquant sur la mer calme de la sainte religion pour y voguer à la faveur du vent de l'esprit de pénitence. Jésus sera notre pilote, comme il a été le sien, si nous le cherchons pour l'amour de lui-même, comme elle l'a cherché. Voilà, prenons Jésus comme notre pilote et ne cessons pas de chercher Dieu dans notre vie. Marie-Madeleine, cela l'a caché au désert de la Sainte-Baume. De même, il nous faut souvent nous retirer dans le désert de notre cœur pour en chasser les bêtes venimeuses qui sont notre amour-propre et nos passions et mauvaises inclinations. Il y a en ce désert une très haute montagne où cette sainte monta. De même, il nous faut monter sur la montagne de la perfection qui est inaccessible sans la mortification. La mortification, c'est de mourir à soi-même, hein. C'est de faire un travail sur soi, hein. On sait bien que ça marche pas tout seul, hein. Il faut s'aider à faire un travail sur soi. Il faut, voilà, faire des efforts. Et c'est pas des sévices corporels, tout ça, hein. Quand on parle de la mortification, c'est chasser notre amour propre. Il faut nécessairement passer par les basses vallées de l'humilité et de l'humiliation. Il y a une grotte où la sainte se retirait. La plaie du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ sera la nôtre. Il y avait dans cette grotte une pierre où elle se reposait. Le Sacré-Cœur sera le lieu de notre repos. Et comme il y a une source d'eau qui coule continuellement, il faut que l'eau de la grâce découle sans cesse dans nos âmes de cette source des eaux vives du Sacré-Cœur de Jésus. Alors voilà, nous devons travailler sans cesse sur nous-mêmes et on sait que c'est parfois difficile, cela prend du temps. Nous pourrions nous décourager, mais Jésus voit toujours notre bonne volonté. Et si nous persévérons, si nous faisons des demandes précises à Jésus pendant nos temps d'adoration, il finira toujours par répondre à nos demandes, à convertir notre cœur. Comment ne pas citer ici Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa fameuse conversion, celle qui est la patronne des missions, hein, et qui a fait une course de géant lors de sa conversion à la nuit de Noël. Hein, c'est quand même assez étonnant. On s'habitue, mais c'est quand même la patronne des missions et elle n'a pas quitté son Carmel. L'ouvrage que je n'avais pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je suis heureuse. Vous voyez, la bonne volonté. Jésus, elle parle des petits escaliers, hein, et elle parle de l'ascenseur d'un point de vue moderne, mais c'est sa petite bonne volonté, c'est-à-dire d'avancer un petit pas après l'autre. Voilà. Et Dieu prend sa petite enfant et l'élève, voilà, dans ses bras. Voilà la pauvreté à laquelle nous sommes appelés. Et nous ne pourrons pas la vivre sans l'aide du Seigneur par l'adoration eucharistique, mais aussi en nous entraidant les uns et les autres. Hein. Quand on est découragé, on a besoin que les autres nous encouragent, nous disent « Allez, vas-y, t'inquiète pas. Voilà, t'es tombé, mais tu vas te relever. Hein. » Souvent, dans les lieux où nous mettons l'adoration eucharistique en place, les laïcs doivent faire de la place dans leur vie pour choisir de prendre une heure d'adoration. Parfois, c'est des vraies conversions. Hein, dans notre vie, dans nos plannings très chargés, de mettre une heure d'adoration dans notre semaine, c'est des vraies conversions, des vrais changements de vie. Mais aussi les prêtres. Hein. Parfois, c'est les premiers, parce qu'il y a beaucoup de laïcs qui voudraient mettre l'adoration dans leur paroisse, et puis les prêtres, ils freinent, parce que, en fait, tout simplement parce qu'ils ont peur, ils savent pas très bien où ça va les emmener. Et j'ai deux témoignages de prêtres. Le premier, c'est un prêtre de Lyon, quand on a mis l'adoration en place à Lyon. Il nous disait, quand j'ai réalisé, parce qu'il avait prévu de faire des travaux dans sa chapelle, pour que ça soit habitable et très beau pour l'adoration eucharistique, il nous a dit, quand j'ai réalisé que le lit qui était le plus proche de la chapelle d'adoration, c'était le mien, parce qu'il était dans le presbytère à côté de la chapelle d'adoration, il a dit, bah, il faut que j'aille adorer la nuit, moi. Il faut que je montre le bon exemple. Mais c'était vraiment un appel de Jésus en lui disant, bah, si t'es quand même le plus proche de la chapelle d'adoration, il faut que tu te lèves la nuit. Et il dit, bah, ça a été une super conversion pour moi, mais j'ai jamais regretté, hein. Et c'est vrai que, le deuxième témoignage d'un prêtre, c'est que je lui disais, mais mon père, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, la mission d'adoration, les gens de votre paroisse vont s'inscrire et tout ça. Et il appréhendait beaucoup parce qu'il se disait, il y aura pas beaucoup de monde. Mais je dis, il y a pas d'échec dans l'adoration. C'est-à-dire que même s'il y a 5 personnes qui lèvent leurs mains pour prendre une heure d'adoration, c'est déjà bien et c'est toujours mieux que 0. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'échec. Mais il était très inquiet et voilà. Et à la fin de la mission, le dimanche soir, on compte le nombre d'inscrits. Et en fait, il y avait des tas de gens qui s'étaient inscrits. Il était bouleversé par ses paroissiens. Et le lendemain, en partant, il me regarde, il me dit, ma sœur, hein, merci pour tout ce que vous avez fait, mais j'ai vraiment manqué de foi. Et il l'avait reconnu humblement. Il avait reconnu que, il n'arrivait pas à faire confiance. Il n'arrivait pas à s'abandonner, en disant que c'était le Seigneur et l'Esprit Saint qui allaient tout faire. Et il tenait à ses paroissiens en sachant pas très bien comment ils allaient répondre. Il y aurait des tas de témoignages à donner. Voilà, c'est vraiment un acte de foi. Moi, je me souviens un témoignage personnel. J'ai rencontré des missionnaires de la Sainte Eucharistie avec qui je travaille depuis 18 ans, je crois. Ils sont venus dans ma paroisse où j'étais à Vichy. Et donc, moi, je me suis convertie devant l'adoration eucharistique. Et donc, j'aimais beaucoup l'adoration eucharistique. Et au bout de 12 ans de vie religieuse, je suis envoyée à Vichy et le curé de la paroisse me dit, voilà, il y a des missionnaires qui vont venir mettre l'adoration dans la paroisse. Vous allez vous en occuper, vous allez voir et tout ça, c'est super et tout. Et moi, vraiment, j'ai dit non, mais c'est pas possible, ça marchera pas. L'adoration, c'est les religieux, c'est des gens qui donnent du temps comme ça dans les sanctuaires et tout ça, mais dans une paroisse, ça marchera pas. Et je freinais, je voyais plein d'obstacles et tout ça, mais j'étais vraiment pénible, quoi. Et le dimanche matin, le curé, il me voit dans la sacristie, vous voyez, j'étais toujours dans cet état-là, il me regarde, il me dit, ma sœur, maintenant, vous allez poser un acte de foi. J'ai dit, OK, je vous obéis, je vais poser un acte de foi. Et en fait, ça a été un super témoignage pour moi parce que, en fait, il faut à un moment donné poser un acte de foi et de se dire, voilà, on y va. Ça dépend pas de nous, ça dépend pas de nos forces humaines, ça dépend que de Jésus et de l'Esprit Saint et il faut accepter que ça passe pas par nous, justement, et de laisser faire l'Esprit Saint comme il souhaite. Alors, la suite du passage de l'onction de Béthanie, je vous lis le passage. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, Celui qui allait le livrer dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Dans la suite de ce passage de l'évangile de l'onction de Béthanie, apparaît Judas qui intervient dans le contexte familial d'un repas. Mais on précise que lui n'était pas dans cette ambiance, puisque c'était l'un des disciples qui allait le livrer. On sait très bien qu'il va livrer Jésus, trahir Jésus, pour de l'argent. Surtout, il intervient. Il casse l'ambiance complètement. Il y a des tempéraments comme ça, hein, qui sont un peu tensiogènes et qui mettent, quand il y a une ambiance très sympathique, ils arrivent et plaf, voilà, l'ambiance est cassée. Il réclame cet argent en plus pour le donner aux pauvres. Mais Saint Jean précise bien qu'il ne disait pas cela par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est très précisément dit, c'était un voleur. Nous voyons tout de suite le contraste entre la vérité, la profondeur du geste de Marie et le mensonge de Judas. Son désir de prendre en faute Marie et même de la culpabiliser. Il calcule le prix de ce parfum, il est dans l'efficacité totale, il n'est pas dans la totale gratuité de l'amour comme Marie, qui elle verse ce parfum comme ça gratuitement. Lui, il est dans l'efficacité, il compte le prix du parfum. Et il y a cette phrase, on aurait pu le donner aux pauvres. Par là, Judas veut manifester que lui agit selon la volonté de Dieu. Quoi, il veut nous faire croire qu'il agit selon la volonté de Dieu. Parce que donner aux pauvres était une exigence de la loi. Il accomplit la volonté de Dieu en donnant aux pauvres, alors que Marie, vous voyez, c'est là où il méprise un peu Marie et il essaye de la culpabiliser, Marie n'est vraiment pas exemplaire pour lui. En gaspillant ainsi l'argent, elle ne fait pas la volonté de Dieu. Judas, il n'a pas vu que dans ce geste de Marie, il n'a pas reconnu qu'elle a reçu du Seigneur sa miséricorde. Elle se reconnaît pécheresse face au Dieu qui sauve. Elle fait un acte de foi, d'action de grâce, là où Judas est centré sur la recherche de sa propre perfection. Vous voyez, ce passage, il est très fort parce que pour comprendre tous les combats qu'on peut vivre face à l'adoration, hein, on est invité vraiment à se remettre sans cesse dans notre confiance en Jésus, en sa toute-puissance, que rien n'est impossible à Dieu. Hein. Souvent, il y a des gens qui vont, alors pas de manière explicite comme ça, mais ils vont vous faire comprendre que le temps que vous prenez pour la prière, pour l'adoration, bah, en fait, c'est du temps perdu. Vous avez bien d'autres choses plus intéressantes à faire. Hein. Vous avez des malades à visiter, des gens à aider, tout ça, vous voyez. Il y a des gens, ils savent faire, ils savent vous culpabiliser, vous mettre un peu, voilà. Et en fait, ça nous décourage vraiment. Hein. Des fois, on se demande si ce qu'on fait en allant prier, c'est vraiment de Dieu. Alors en plus, quand c'est difficile d'aller prier et que l'adoration n'a pas été conforme à ce qu'on attendait, qu'on soit pas trop de grâce, on semble ne pas recevoir beaucoup de grâce et tout ça, ben ça nous décourage encore plus, vous voyez. Et on peut très vite arrêter. Il y a beaucoup d'adorateurs qui arrêtent à cause de ça. Parce que en fait, ils s'attendent à recevoir des grâces sensibles, ils n'en reçoivent pas, et donc ils se découragent. Et en plus, comme ils se découragent, ben, le démon, il est très intelligent, il met des gens sur leur chemin en leur disant « Mais oui, t'as bien raison, tu vas pas te fatiguer à faire ça, tu vois, il y a personne en fait, voilà. » Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est l'avenir, l'adoration, c'est notre préparation pour la vie éternelle. Et en plus, c'est vraiment là où on peut puiser la force auprès de Jésus pour nous encourager. Et on parlait, le Père Jérôme parlait beaucoup de notre liberté. C'est aussi un lieu où on retrouve notre liberté en face de Dieu, où on peut témoigner de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle, parce qu'on a reçu la force de Dieu pour donner ce témoignage. Voilà, parfois nous pensons que la prière, elle est inutile. Que cela ne change rien dans notre vie. On voit pas de progrès dans notre vie. On voit pas qu'on s'est converti. Et puis, le monde semble aller de plus en plus mal. Et alors, on a la tentation de se dire, ben voilà, je trouve pas de temps pour la prière, je vais arrêter, je vais repousser sans cesse ce temps. On se dit, ben, quand j'aurai le temps, j'irai prier. Ben non, on n'a jamais le temps d'aller prier. Par contre, si on prend un temps pour la prière, ben, le reste, comme je disais tout à l'heure, le reste prend sa place. Mais ce qui sauve le monde, hein, ou qui l'a déjà sauvé, ben, c'est Dieu. Et Dieu, il est là et il a déjà sauvé toutes les personnes qui acceptent, voilà, de participer au salut du monde et de se mettre à la suite de Jésus pour aller toucher les cœurs, pour découvrir cette miséricorde de Dieu. Pour rencontrer vraiment le Christ, il nous faut un acte de foi qui demande un acte de volonté. Oui, Seigneur, je veux croire que tu es réellement présent devant moi. Faut pas hésiter quand on est à l'adoration de poser des actes de foi, des actes de charité et des actes d'espérance. Et si nous sommes seuls à venir prier auprès de Jésus, nous prenons soin de lui au nom de toutes les autres personnes qui aimeraient le connaître, l'aimer, et nous intercédons pour eux, pour demander la paix, le salut du monde. On a un pouvoir d'intercession auprès de Jésus qui est énorme, qui est hyper efficace. Voilà. C'est pour ça que la petite Thérèse, elle a touché autant de gens, qu'elle a converti autant de gens. Parce qu'elle avait compris qu'elle pouvait intercéder auprès de Jésus pour convertir des personnes qui étaient loin de lui. Oui, je veux prendre soin de ton corps eucharistique, Jésus, de ta présence vivante et réelle au milieu de nous. La suite du passage de Saint Jean, Jésus lui dit, laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alors Jésus intervient. Il intervient parce que on entend Judas qui parle. Et heureusement que Jésus est intervenu parce que sinon on s'aurait dit, mais en fait, qui a tort, qui a raison, qu'est-ce que c'est que cette remarque de Judas, hein? Non, heureusement, Jésus, il va intervenir pour défendre Marie. Et il va faire une remarque à Judas. Jésus prend toujours la défense des pauvres, des plus vulnérables. Surtout, il n'aime pas l'hypocrisie. Judas, non seulement il est hypocrite, car il veut montrer qu'il prend la défense des pauvres. Or, ce n'est pas vrai, c'est un voleur. Mais en plus, il semble ne plus aimer Jésus et réagir par jalousie en essayant de prendre la place de Marie. Jésus regarde toujours l'intention de notre cœur. Il connaît le cœur de Marie, il sait pourquoi elle a fait ce geste auprès de lui. Et Jésus dit à Judas, laisse-la faire ce geste qu'elle ne pourra pas refaire lors de ma mort. L'intervention de Judas a permis à Jésus de se positionner face à Marie, de la défendre, et d'expliquer la profondeur de son geste. Il veut aussi montrer que le vrai pauvre, c'est lui. Et c'est aussi notre richesse, comme le dit la deuxième épître aux Corinthiens. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Oui, le vrai pauvre, c'est Jésus. Il a voulu prendre notre condition humaine en naissant dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour lui. 30 ans de vie cachée. Non, mais vous entendez ça? 30 ans de vie cachée. Jésus, on pourrait dire, il a perdu son temps. 30 ans de vie cachée, pauvrement, pour seulement 3 ans de vie apostolique, où il sera peu accueilli, abandonné par ses disciples et trahi par Judas. Quel succès! Il va être crucifié, mais il est ressuscité. Il nous fait cette belle promesse, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Voilà, Jésus reste présent au milieu de nous sous les espèces eucharistiques. Quel mystère! Il n'a pas besoin de nous, mais il a voulu dans sa sagesse être le pauvre, le mendiant de notre cœur. Ce n'est plus lui qui vient à nous, c'est nous qui devons aller à lui. Nous devons devenir ce pauvre qui prend soin du pauvre, par excellence, Jésus. Ce corps eucharistique offert à nous, sans protection, sans armes, il se livre entre nos mains, il attend le bon vouloir du prêtre, alors, lors de la célébration de la messe. Il attend dans tous les tabernacles qu'on y dépose son corps eucharistique. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Quel mystère ! Quelle pauvreté ! Nous devenons responsables de lui. Il est faible et vulnérable et il se laisse même profaner dans nos églises. Hein. C'est vrai qu'on souligne beaucoup hein, toutes ces profanations dans les églises, il y en a de plus en plus. Moi, pour avoir assisté, encore une fois, à Vichy, à une profanation, c'est horrible. Et en même temps, ben, s'il y a beaucoup d'adorateurs, ce qui s'est passé à Vichy, c'est que c'était des adorateurs qui étaient dans l'église et qui ont fait fuir les gens qui étaient rentrés dans l'église. Voilà, et les policiers qui étaient un peu interpellés et le prêtre qui comprenait pas ce qui s'était passé, le gendarme s'est tourné vers le prêtre et lui a dit, mon père, heureusement qu'il y avait des gens dans votre église parce que sinon votre église, elle n'était plus là. Elle était en train de prendre feu. Et le fait qu'il y ait un adorateur qui rentre pour prendre son heure d'adoration pendant la nuit, eh ben, les gens ont entendu du bruit et ils sont partis, ils sont enfuis de l'église alors qu'ils étaient en train de mettre le feu à l'église. Donc l'adorateur a appelé les pompiers et tout ça, c'était bien terminé. Mais c'est vrai que nos églises, parfois, ils sont laissés un peu à l'abandon et il y aurait plus d'adorateurs, il y aurait plus de présence auprès du tabernacle pour vraiment veiller auprès de Jésus pour que ces profanations n'existent pas. Alors, on pourrait se poser cette question, alors. Pourquoi nous passons des heures d'adoration devant Jésus et que nous ne sommes pas encore saints? Je ne sais pas s'il y a des saints parmi nous, mais en tout cas, moi, je ne me considère pas comme sainte. Et pourtant, on passe des heures et des heures d'adoration et on se dit, même il y a des gens qui nous font des remarques pas très, très gentilles et qui nous disent, si c'est ça, les chrétiens et les cathos, ça ne donne pas très envie, vous voyez. Pour Judas, le contact avec Jésus n'a pas suffi puisque c'était un disciple de Jésus. Il a gardé un cœur fermé, il a gardé un cœur pur, un cœur dur, et il n'a pas du tout laissé de place à la conversion de Marie. Il aurait pu être touché par la conversion de Marie. Il a vécu avec Jésus, il le suivait comme disciple, mais son cœur était fermé. Dans l'épître de Saint Jean, nous lisons « À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité et devant lui, nous apaiserons notre cœur si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Jésus même méprise Marie, mais il se méprise aussi lui-même. Il ne s'aime pas. Il aurait dû aller voir Jésus pour lui parler et lui ouvrir son cœur. Il y avait toute la place de la conversion pour lui. Il aurait pu voir, grâce à Marie, que c'était possible de changer de vie. Vous savez, quand une grâce nous est faite, il faut la saisir tout de suite parce que elle peut ne plus réapparaître plus tard. Elle peut passer très vite, voyez. Judas, il avait une grâce qui lui était faite là. En voyant Marie faire ce geste extraordinaire, il aurait pu, être bouleversé dans son cœur, être touché par cet amour de cette femme pour Jésus, et il aurait pu se convertir. Non, il n'a pas saisi la grâce, il n'a pas pu prendre cette grâce et en profiter. Ouais. Et souvent dans nos vies, on passe à côté des grâces que le Seigneur nous fait. Donc il faut profiter des rencontres qu'on fait, des gens peut-être qui interviennent sur notre chemin et qui nous font des petits signes parfois. Profiter de ces moments de grâce pour se dire, voilà, il y a un petit clin d'œil de la part de Jésus. Allez, je profite de cette petite grâce, par exemple pour aller me confesser parce que je sens que j'ai envie d'y aller ou pour aller demander pardon à quelqu'un ou pour aller aider une personne qui a besoin. Vous voyez, des petites grâces qui nous ont faites comme ça, il faut en profiter. C'est là où Jésus a une très grande pédagogie envers Judas pour le convertir parce qu'il lui a donné l'occasion, il lui avait donné l'occasion puisqu'il dit qu'il s'occupe des pauvres, il lui a donné l'occasion de s'occuper des pauvres. Or, il s'occupe pas des pauvres puisqu'il nous a dit, Saint Jean nous a dit qu'en fait, il prenait l'argent pour lui. Si vraiment Judas avait vendu ce parfum à 300 deniers, il aurait pu prendre soin des pauvres. Et peut-être qu'à travers eux, il aurait retrouvé le corps souffrant de Jésus. Et son cœur aurait pu être touché. Jésus nous envoie. Allez de toutes les nations, faites des disciples. ou comme la Samaritaine, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous imaginez la réaction des gens qui entendent cette femme? Voilà, Judas aurait pu être touché par la conversion de Marie-Madeleine. C'est notre conversion, encore une fois, notre témoignage de notre conversion qui va toucher les gens. Je me souviens d'un petit exemple, là, il n'y a pas très longtemps. Il y a un prêtre qui me téléphone et qui me dit, voilà, est-ce que vous pourriez accueillir une femme qui aurait besoin d'un petit temps de repos, qui est très fatiguée, et est-ce que vous auriez eu du temps pour parler avec elle? Bien sûr, je vais prendre du temps pour parler avec elle. Et elle me raconte les épreuves de sa vie, qui étaient vraiment très, très difficiles. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, je lui ai dit, mais est-ce que vous lui avez demandé pardon? Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu poses cette question? Et alors, il y a une petite goutte, une larme qui coule sur mon œil, et elle le voit, et elle me dit, mais il y a un problème. Alors, je dis, le fait que vous ayez pardonné, pardon, je n'ai pas fini l'histoire. Alors, je lui dis, est-ce que vous avez pardonné? Et alors, elle dit, oui, bien sûr, j'ai pardonné à cette personne. Je lui ai écrit un mot, je lui ai redit plusieurs fois et tout ça, que vraiment, il était pardonné pour ce qu'il avait fait et tout ça. Et donc, elle voit cette petite larme sur mon œil et elle me dit, mais ça ne va pas. Alors, je lui dis, en ce moment, je suis en train de vivre quelque chose de difficile et justement, j'ai du mal à pardonner. Donc, vous entendre parler de ce pardon que vous avez donné, ça me fait chaud au cœur, quoi. Ça m'interpelle. Et alors, elle me dit, ah bon, parce que même les religieuses, vous avez du mal à pardonner. Alors, je dis, oui, vous voyez, même les religieuses, elles ont du mal à pardonner. Et en fait, à mon temps d'adoration le soir, j'ai dit à Jésus, merci pour cette personne que tu as mise sur mon chemin, parce qu'elle va m'aider à demander pardon, mais tu vois bien que j'arrive pas humainement. C'est tellement douloureux et c'est tellement difficile. Ça fait plusieurs jours que j'essaie, j'arrive pas. Et j'ai senti l'Esprit Saint qui me disait, mais lâche, laisse faire Jésus, quoi. Et donc, j'ai lâché et Jésus, voilà, a fait son œuvre en moi. Mais voyez, ça aussi, c'est une petite mission entre nous, c'est que cette femme, elle a été missionnaire pour moi. Elle a été vraiment la personne que Jésus a mis sur mon chemin pour me permettre cette petite conversion que j'arrive pas à faire, à vivre. Voilà, les pauvres. Alors, je parle pas que de la pauvreté matérielle, hein. Il y a aussi la pauvreté spirituelle, la solitude dans les épreuves, le deuil, la maladie, tout ça, c'est des pauvretés qu'on découvre dans notre monde. Mais la vraie rencontre avec un pauvre me décentre de moi, ouvre mon cœur, m'apprend la disponibilité, la gratuité, la fidélité. Le pauvre change notre rapport au temps. C'est celui qui a le temps. Et avec les pauvres, souvent, on est des serviteurs inutiles. Souvent même, ils nous remercient même pas. Hein. Et puis, ça nous apprend à découvrir, si on l'a pas découvert, qu'on n'est pas le sauveur du monde. Vous voyez, on découvre que c'est vraiment Dieu qui fait l'œuvre dans les cœurs des gens et qui les convertit. Et nous découvrons aussi, à travers les pauvres, que nous avons besoin des autres. Les pauvres, les vrais pauvres, souvent, ils sont très solidaires entre eux. Ils s'aident, ils s'entraident, voyez. Et nous, parfois, on a du mal à s'entraider. Et le fait d'avoir des pauvres dans nos vies, d'aller visiter des pauvres, de soulager des pauvres, on découvre cette solidarité dans les petits gestes, dans les entraides fraternelles. Face à une personne âgée ou face à un malade, il n'y a plus d'efficacité, on est dans la gratuité. Il n'est pas question de réussite, mais d'être là présente. Quand vous êtes en face d'une personne âgée dans une maison de retraite, que la personne ne parle plus et même finit par ne plus manger, elle est là sur son lit allongée, il n'y a pas de réussite, il y a une présence, il y a une fidélité auprès d'elle. Mère Teresa, elle dit, vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle. Voyez, fidèle aux pauvres, à qui vous avez promis une petite visite, à qui vous avez promis une petite aide, un petit service et tout ça. Ça nous apprend la fidélité dans les petits services qu'on peut rendre, qui sont pas forcément des choses extraordinaires, mais un service fidèle. La pauvreté de Jésus sur la croix, extérieurement, c'est l'échec total. Et les disciples n'ont même pas su veiller une heure avec lui. Les pauvres peuvent nous apprendre la fidélité dans nos engagements, à offrir notre temps gratuitement, à donner de notre nécessaire. Ils nous apprennent aussi la providence, l'abandon, le lâcher prise, à ouvrir notre cœur. Il nous apporte souvent la joie de donner et de se donner sans compter. Vous voyez, des fois, on est triste. Hein. On a une petite tristesse dans notre cœur où on se rend compte que voilà, qu'on a des petites épreuves ou des grandes épreuves et puis qu'il y a cette tristesse qui s'installe dans notre cœur. Eh ben, on peut se demander, à travers cette tristesse, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai accaparé? Est-ce qu'il y a une richesse que j'arrive pas à donner? Peut-être une compétence, peut-être du temps, quelque chose que j'arrive pas à donner. Souvent, c'est un petit signe qu'on n'arrive pas à vivre une certaine pauvreté. Il y a un texte du pape François que je voudrais vous lire à ce sujet. Dans Gaudete et Exultate, donc c'est un texte de mars 2018, voilà ce qu'il dit. Écoutons encore Jésus avec tout l'amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeller en vue d'un changement réel de vie. Autrement, la sainteté ne sera qu'un mot. Et un peu plus loin, il dit « Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères, ni pour réjouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C'est pourquoi Jésus déclare « Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante. » Mais c'est aussi notre responsabilité de prendre soin des plus vulnérables, apprendre à les écouter avec notre cœur et les conduire auprès du corps eucharistique de Jésus, offrant sa vie pour nous sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est notre mission et notre responsabilité. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Oui, nous devons prendre soin du corps eucharistique de Jésus, de notre corps aussi, mais aussi de celui des autres. Marie, elle n'était pas en acte d'adoration en tant que telle, mais elle a pris soin du corps de Jésus. Le soin du pauvre, de la personne vulnérable, m'aide à comprendre la vulnérabilité du corps eucharistique de Jésus. Il se laisse faire. Il s'agit de ne pas être tout puissant. Il accepte de dépendre de nous. Voilà. Et comme le disait si bien le père Hans Zollner, donc c'est un théologien et psychologue, lors d'une conférence qu'il a donnée à Paris sur la situation des abus dans le monde, au mois de juin, voilà ce qu'il a, il a dit cette phrase très très belle. Nous avons à entendre le Christ souffrant dans les victimes. Nous avons à entendre le Christ souffrant dans les victimes. Voilà. Devenir un adorateur missionnaire en préservant notre vie intérieure afin de ne pas tomber dans l'activisme ou de prendre, comme je vous le disais, de pas se prendre pour le sauveur du monde. Voyez, on peut être un adorateur missionnaire, mais il faut pas tomber dans l'activisme. Il faut pas que nos activités prennent le dessus. Et donc, il s'agit de devenir un adorateur missionnaire, mais aussi de devenir un missionnaire adorateur. Et ça, parfois, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Parce que je vous disais tout à l'heure, on se croit un peu sauveur du monde. Parfois, il y a des réussites, il y a des choses qui marchent et tout ça. Et on oublie de revenir vers Jésus. Alors, je vais vous citer une très belle phrase de Saint Charles Foucault. La mission est un chemin d'humanisation qui conduit à la rencontre avec Dieu. Vous voyez, c'est le retour. La mission est un chemin d'humanisation qui conduit à la rencontre avec Dieu. Il découvre sa vocation profonde à travers les événements de sa vie, ne cherchant plus à convertir, mais seulement à aimer. Il cherche plus à convertir, mais à aimer les gens que le Seigneur met sur sa route. En 1909, il écrit dans son journal « Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire « Puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Je voudrais être assez bon pour qu'on dise « Si tel est le serviteur, Comment donc est le maître? Et donc notre mission devrait toujours nous conduire à l'adoration, nous reconduire à l'adoration, afin de garder toujours notre cœur rempli d'amour et mendiant de cet amour. Sinon, on risque de s'épuiser. Et surtout, on ne témoignera pas de Jésus, mais de nous-mêmes. Hein, c'est le beau témoignage de Mère Teresa qui disait à ses sœurs de venir à l'adoration parce que les pauvres, ils ont moins besoin du service qu'on leur rend que, en fait, de rencontrer l'amour de Jésus dans notre cœur. Quand on demandait à Mère Teresa « qu'est-ce qui sauvera le monde ?», elle répondait « ma réponse est la prière ». Il faut que chaque paroisse se tienne au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement, dans des heures d'adoration. Alors c'est vrai que très vite, on peut sentir que en Jésus, on ne va pas y arriver. Il y a des missions parfois qui sont difficiles et ça nous oblige à retourner vers Jésus, à lui demander de l'aide. Et heureusement, une sœur de ma communauté qui était partie en Guinée, elle donne ce petit témoignage. Tous les soirs, je remettais ma mission à Jésus. Cela m'a aidé à ce qu'elle soit une œuvre commune entre Jésus et moi. Ma mission me demandait pas mal de force, tant morale que physique. Devant Jésus, je pouvais redevenir complètement faible et petite, sans crainte. Voilà. Et en plus, c'est Jésus qui nous donne la vraie paix. C'est celui qui va nous donner vraiment de pouvoir se poser auprès de lui et de pouvoir retrouver ce calme intérieur, cette vie intérieure, pour pouvoir après retourner en mission. Alors nous pourrions regarder la vie de tant de saints, je vous en cite deux, donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, qui est restée, comme je vous disais tout à l'heure, dans son couvent, hein, et qui a converti tant de personnes par sa prière et par les sacrifices. C'était ces deux armes invincibles, c'était la prière et le sacrifice. Et puis Saint Maximilien Kolb, vous voyez, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour un prisonnier à Auschwitz en une seconde. Hein, il a donné sa vie à un père de famille, mais toute sa vie l'a préparé à ce don de lui-même. Et surtout, dans son couvent, il y avait des moments d'adoration. Et quand ils ont senti que la Gestapo allait venir dans le couvent, ils ont choisi de mettre l'adoration perpétuelle pendant des jours et des jours pour avoir le courage de continuer leur mission alors qu'ils savaient très bien qu'ils risquaient leur vie. Et puis le dernier, c'est le carrefour de tout à l'heure, c'est bienheureux Carlo Acutis, hein, qui le jour de sa première communion a tellement été touché par Jésus qu'il a choisi d'aller à la messe tous les jours, de prendre un petit temps d'adoration tous les jours, mais aussi par ses compétences, et là où il est vraiment missionnaire, par ses compétences informatiques, il a vraiment pu annoncer à Jésus, et encore maintenant, il peut annoncer à Jésus et témoigner combien Jésus est vraiment réellement présent dans l'Eucharistie et c'est vraiment toute son exposition qui circule dans le monde entier pour redonner aux personnes qui doutent de la présence réelle, voilà cette ferveur en la présence de Jésus au Saint-Sacrement. Voilà, cette sainteté, elle est à notre portée quand on voit Carlo Acutis. Il suffit de notre bonne volonté, comme je vous disais. Un petit pas, hein, et puis Jésus fait tout le reste. Mais il s'agit de chercher la volonté de Dieu à travers notre devoir d'État et aussi les appels urgents de l'Esprit-Saint qui va nous demander d'aller à droite ou à gauche. Donc il faut être vraiment docile à l'Esprit-Saint pour savoir si le Seigneur nous appelle là ou s'il nous appelle là. Et c'est pas si évident. Alors pour conclure, je voudrais vous citer cette très belle phrase de Saint Manuel González García, qui est fondateur des Tabernacles abandonnés. Il y a eu des articles qui ont été faits dans le Brasier Eucharistique par le Père Jérôme sur cet homme qui s'est converti en voyant des tabernacles abandonnés. Et voilà ce qu'il disait. « Je veux mourir devant un tabernacle ou devant la porte de la maison d'un pauvre. » Je veux mourir devant un tabernacle ou devant la porte de la maison d'un pauvre. Vous voyez, ces deux choses si importantes, l'adoration eucharistique et puis la mission auprès des pauvres où le Seigneur nous envoie pour témoigner de son amour et de sa miséricorde. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Voilà, c'est ce que nous donnent les saints, cette grande pauvreté qui leur donne aussi une grande liberté d'action et qui fait qu'ils sont vraiment très dociles à l'Esprit-Saint. et Mère Teresa qui disait « Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au ciel, et contribuera à apporter une paix éternelle sur terre. Toutes nos adorations, toutes nos communions, toutes nos actions apostoliques faites par amour rendront notre âme de plus en plus belle pour ce face-à-face éternel où nous continuerons éternellement à adorer Jésus dans cette immense communion des saints. »